RFI, 4 heures à Paris, 3 heures en temps universel.
Mathis Limano.
Kigali un peu plus sous pression. Londres a annoncé suspendre la plupart de ses aides au Rwanda. En cause, le soutien apporté aux rebelles du M23, les nouveaux maîtres de Goma et Bukavu en RDC. La France prête à déployer son parapluie nucléaire au-dessus de l'Europe. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle est ravivée par l'attitude de Washington, de moins en moins enclin à garantir la sécurité de ses alliés historiques. Et puis les maladies rares. En France, elles touchent 3 millions de personnes. Ce mardi, le ministère de la Santé a annoncé un nouveau plan de lutte contre ces pathologies. L'étau se resserre donc autour de Kigali. Dans un communiqué diffusé hier, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a annoncé que le Royaume-Uni allait suspendre la plupart de ses aides au Rwanda, et ce jusqu'à ce que des progrès significatifs soient faits. Londres dénonce notamment la prise en RDC de Goma et de Bukavu par le M23 et les forces rwandaises, qui constituent, je cite, une violation inacceptable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi qu'une violation de la Charte des Nations Unies. Paul Lorgerie, cela pourrait être un revers de taille pour le Rwanda.
Ces suspensions concernent plusieurs domaines, comme l'aide financière bilatérale directe au gouvernement rwandais, les formations militaires ou encore les activités de promotion commerciale avec le Rwanda. Seuls les programmes destinés aux plus pauvres et aux plus démunis seront sauvegardés. Une décision jugée regrettable et irraisonnable par le gouvernement rwandais, qui affirme que Londres a, je cite, clairement choisi son camp. Fin janvier, David Lammy avait menacé Kigali, avertissant que les accords qui lient les deux pays pourraient être réexaminés. Une menace donc mise à exécution après sa visite à Kinshasa et à Kigali les 21 et 22 février, lors desquels le ministre britannique a insisté qu'il ne pouvait y avoir de solution militaire à cette guerre et que les processus de paix en cours sont les seules voies de sortie envisageables. Alors serait-ce la fin de l'idylle entre Londres et Kigali? Jusqu'à juillet dernier, le Rwanda et le Royaume-Uni entretenaient de très bonnes relations. Les deux pays avaient notamment conclu un accord qui prévoyait l'envoi de migrants en situation irrégulière sur le sol britannique vers le Rwanda. Un accord suspendu par le nouveau gouvernement britannique pour lequel le Royaume-Uni avait déjà déboursé 280 millions d'euros.
Paul Lorgerie, le premier ministre britannique attendu à Washington ce jeudi, à l'image d'Emmanuel Macron, Keir Starmer vient tenter de convaincre Donald Trump d'apporter des garanties de sécurité dans une paix négociée entre la Russie et l'Ukraine. Le lendemain, vendredi, c'est Volodymyr Zelensky qui sera à la Maison Blanche, l'Ukraine et les États-Unis sur le point de sceller un accord sur la question des minerais ukrainiens. Depuis plusieurs semaines, le président américain exigeait que Kiev cède ses ressources minières afin de compenser les milliards de dollars d'aide versés par les États-Unis. De son côté, le dirigeant ukrainien espérait de Washington des garanties fermes en termes de sécurité. Les deux camps auraient fini par trouver une solution et pourraient signer l'accord dès ce vendredi. Et en Europe, l'hypothèse d'un retrait américain de l'OTAN inquiète les Européens. Selon le quotidien britannique The Telegraph, la France serait prête à offrir son bouclier nucléaire à l'Europe, une option déjà évoquée en avril dernier par le président Macron, désireux d'aller plus loin dans l'intégration de la défense européenne. Il plaide aujourd'hui pour un débat européen sur la question, un sujet qui ne date pas d'hier, comme nous l'explique Dominique Trinquant, expert militaire et ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies.
Il faut se souvenir que c'est une proposition qui a été faite non seulement par le président Macron, mais par les présidents précédents. Le point est que jusqu'à maintenant, aucun pays européen n'avait saisi cette balle au bond parce qu'ils comptaient tous sur le parapluie américain. Pour la première fois, le futur chancelier allemand a évoqué cette possibilité. Et je crois que c'est un changement majeur en Europe. Alors, ça ne veut pas dire de mettre en place des bases qui portent des armes nucléaires en Allemagne ou ailleurs, puisque l'essentiel de la dissuasion nucléaire française repose sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc eux, ils sont dans l'Atlantique et c'est à partir de là qu'on tire. Évidemment qu'il doit y avoir des discussions entre les pays européens et la France sur ces sujets, mais ça ne veut pas dire qu'il faudra 27 doigts pour appuyer sur un bouton. Ça veut dire que la dissuasion française s'étendra aux pays européens, mais sera toujours commandée par la France.
L'expert militaire Dominique Trinquant avec Yelena Tomic. Eux se rapprochent un peu plus en matière de défense. Les Philippines et le Japon, confrontés tous les deux à une Chine qui se montre de plus en plus agressive, afin de contrôler la mer de Chine méridionale, un passage par lequel transite près d'un tiers des marchandises mondiales. Tokyo et Manille resserrent donc les rangs en renforçant leur coopération militaire. Les ministres de la Défense des deux pays l'ont annoncé après leur rencontre à Manille, Heike Schmidt.
Encore il y a quelques jours, un hélicoptère chinois s'est dangereusement rapproché d'un avion philippin de surveillance à proximité de l'île disputée de Scarborough Shoal. Pour faire face à ces incidents qui se multiplient, Mani cherche le soutien militaire du Japon. Gilberto Teodoro, le ministre philippin de la Défense.
C'est notre cause commune de résister à toute tentative unilatérale de redessiner l'ordre mondial sans consultation des acteurs qui font partie intégrante de cet ordre mondial.
Déjà aujourd'hui, le Japon est l'un des contributeurs clés pour moderniser la flotte philippine. Ken Nakatani, ministre japonais de la Défense, se dit prêt à redoubler ses efforts sans donner plus de précisions.
Nous sommes d'accord pour dire que l'environnement sécuritaire devient de plus en plus tendu. Il est donc nécessaire d'approfondir notre collaboration afin de sauvegarder la paix et la stabilité dans l'Indo-Pacifique.
Les deux pays alliés traditionnels des États-Unis sont parmi les plus critiques vis-à-vis de Pékin, qui revendique 90% de la mer de Chine méridionale, à tort, a jugé en 2016 déjà une cour internationale de justice.
Ce rapprochement entre le Japon et les Philippines, alors que le porte-avions français Charles de Gaulle y fait escale actuellement, c'est la première fois que le géant de la marine française s'arrête aux Philippines dans le cadre d'une mission dans la région Indo-Pacifique. Donald Trump poursuit sa croisade contre la science climatique. Après avoir retiré les États-Unis de l'accord de Paris, son administration a interdit aux scientifiques américains de participer à la réunion du GIEC, ce groupe d'experts intergouvernemental qui se rencontre cette semaine en Chine. Et les enjeux sont importants. Il s'agit de décider du contenu et de la date de publication du prochain grand rapport du GIEC, état des lieux des connaissances scientifiques sur le réchauffement planétaire. Mais autour de la table, donc, pas de scientifiques américains, Stéphanie Schuller.
Réunis à Hangzhou, en Chine, les scientifiques venus de plus de 190 pays ne peuvent que constater que les sièges réservés à leurs collègues américains restent vides. Parmi les climatologues interdits de voyage se trouve Kate Kelvin, scientifique en chef de la NASA, qui devait co-présider le groupe 3 du GIEC dédié à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon Sébastien Treyer, directeur de l'Institut du développement durable et des relations internationales, le retrait des Américains ne devrait pas affecter la rédaction du prochain rapport du GIEC.
On va s'appuyer beaucoup sur les publications scientifiques déjà existantes et là, tout ce qui a été produit par la science américaine va être disponible et ça, c'est le plus important. Pour remplacer les gens qui ont pris des responsabilités dans l'organisation du GIEC, à mon avis, on pourra se substituer.
Le processus d'écriture du rapport durera au moins 3 ans et les scientifiques fédéraux américains n'auront donc a priori pas le droit d'y participer. Mais rien ne dit que l'administration Trump ne réapparaîtra pas sur la dernière ligne droite pour entraver la validation du rapport du GIEC avant sa publication.
Stéphanie Schuller, l'armée chilienne déployée pour assurer le maintien de l'ordre et l'état d'urgence déclaré. La capitale, Santiago, et une grande partie du pays plongée dans le noir après une panne massive de courant. 8 millions de foyers concernés. L'électricité rétablie pour la moitié selon les autorités qui prévoient le rétablissement total du courant au cours de la matinée. Manuel Valls, ministre français des Outre-mer, est arrivé en Nouvelle-Calédonie. Début des négociations avec l'ensemble des formations politiques, dont les indépendantistes. Ces négociations font suite aux violentes tensions ethniques ravivées en 2024 entre populations kanak et européennes. Et puis l'actualité française, c'est ce nouveau plan de lutte contre les maladies rares lancé ce mardi. 3 millions de Français concernés par ces différentes pathologies. Objectif de ce plan, mieux dépister et développer les centres de prise en charge Rambeng.
Chaque année, plus de 220 millions d'euros seront désormais alloués à la lutte contre les maladies rares. Pour une durée de 5 ans, le budget annuel du plan servira d'abord à mieux former et mieux informer les médecins de ville notamment, afin que ces derniers puissent mieux diriger les patients vers les spécialistes et les centres hospitaliers adéquats et éviter au maximum l'errance médicale. Car jusque-là, les délais moyens pour poser les diagnostics d'une maladie rare étaient de 5 ans. Le nouveau plan prévoit également de favoriser le dépistage des pathologies en mettant à disposition de nouvelles technologies, notamment en génétique. L'accent sera aussi mis sur le dépistage juste avant ou juste après la naissance pour guérir des nourrissons atteints d'une maladie rare. Il est également prévu l'ouverture de 132 nouveaux centres de référence avec des personnels qualifiés, ce qui portera à 600 leur nombre total. La maladie de Charcot, la myopathie de Duchenne ou la mucoviscidose sont quelques-unes des maladies rares les plus connues.
Aram Beng, service France d'RFI pour refermer votre journal. Il est 4h10 à Paris.